L'envie de lire.
Radio Shalom, Dijon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Shalom Bourgogne. Et aujourd'hui dans l'envie de lire, j'avais envie de vous parler du livre « Qui a tué mon père ?» d'Edouard Louis. « Qui a tué mon père ?» qui s'écrit sans point d'interrogation. Parce que ce titre n'est pas une question que se pose l'auteur, mais bien une affirmation à laquelle il prétend répondre dans son livre. Et alors, pour présenter brièvement Édouard Louis, donc c'est un auteur qui a actuellement 31 ans, qui est né en 1992 dans la Somme, et qui à sa naissance s'appelait Édouard Bellegueule. En 2011, après avoir commencé des études d'histoire à l'université de Picardie, il intègre l'ENS de la rue d'Ulm, dont il sort diplômé d'un master en histoire en 2014, et en janvier 2014 paraît son premier livre, qui s'appelle justement « En finir avec Eddie Bellegueule », Eddie qui était donc le surnom qui lui avait été donné pendant sa scolarité. Et dans ce livre, fortement autobiographique, il retrace son parcours de ce qu'on appelle un transfuge de classe, donc qui a grandi dans les quartiers populaires d'Abbeville, dans la Somme, jusqu'à intégrer l'ENS rue d'Ulm à Paris. Une trajectoire de transfuge de classe qui peut être comparée à celle d'autres auteurs et autrices comme notamment Annie Ernaux ou encore Didier Ribon dans Retour à Reims. Et donc en mai 2015, Édouard Bellegueule obtiendra son changement de nom pour Édouard Louis après donc un cheminement de pensée qu'il raconte dans ce premier livre. Et donc Qui a tué mon père, dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, est le troisième livre d'Édouard Louis, dans lequel il revient plus précisément sur sa relation avec son père, une relation qui, on peut le voir à travers ce livre, ce court livre qui fait moins de 100 pages, a été plus qu'ambiguë et a été ponctué de différentes émotions entre l'amour et le rejet. C'est notamment cette ambiguïté qu'on peut lire dans les nombreuses anecdotes racontées par l'auteur, et notamment dans cette anecdote quand il parle de la VHS de Titanic qu'il a demandé à ses parents pour son anniversaire. 1999. Je compte sur mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me prépare à avoir 8 ans. Tu m'as demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Et je t'ai répondu Titanic. La version VHS du film venait de sortir. On voyait la pub passer plusieurs fois par jour à la télévision. En boucle. Je ne sais pas ce qui m'attirait autant dans ce film. Je ne saurais pas dire. L'amour, le rêve partagé de Leonardo DiCaprio et de Kate Winslet de devenir quelqu'un d'autre, la beauté de Kate Winslet, je ne sais pas, mais j'étais obsédé, déjà, par ce film que je n'avais pas encore vu, et je te l'ai demandé. Tu m'as répondu que c'était un film pour les filles, et que je ne devais pas vouloir ça. Ou plutôt, je parle trop vite, d'abord, tu m'as supplié de vouloir autre chose. Tu ne veux pas plutôt une voiture télécommandée, ou un costume de super-héros? Réfléchis bien. Mais moi je te répondais, non, non, c'est Titanic que je veux. Et c'est après mon insistance, après ton échec, que tu as changé de ton. Tu m'as dit que puisque c'était comme ça, je n'aurais rien. Pas de cadeau. Je ne me rappelle pas si j'ai pleuré. Les jours ont passé. Le matin de mon anniversaire, j'ai trouvé au pied de mon lit un grand coffret blanc, avec écrit dessus en lettres d'or, Titanic. À l'intérieur, il y avait la cassette, mais aussi un album photo sur le film. Peut-être une figurine du paquebot. C'était un coffret de collection, sûrement trop cher pour toi et donc pour nous. Mais tu l'avais acheté, et tu l'avais déposé près de mon lit, enveloppé dans une feuille de papier. Je t'ai embrassé sur la joue et tu n'as rien dit. Tu m'as laissé regarder ce film près d'une dizaine de fois par semaine pendant plus d'un an. Voilà donc une scène qui montre bien cette situation paradoxale finalement, et aussi tout ce qui commence déjà dès ses 8 ans à opposer l'auteur avec son milieu familial d'origine, et ici donc notamment avec la figure de son père. Mais au-delà de sa relation avec son père, dans ce livre, c'est plus largement une certaine domination de classe qu'Édouard Louis se propose d'analyser, considérant que la situation de dominer de son père l'a conduit à avoir des comportements délétères et des comportements excluants, comme dans cette scène où il refusait, par exemple, d'acheter la VHS de Titanic à son fils parce qu'il considérait que c'était un cadeau de fille. Et donc ces comportements qui s'expliquent, selon l'auteur, par la peur d'une domination encore plus grande à l'égard de ceux qui sont déjà dominés. Et il mentionne notamment ce qu'il considère avoir été l'absence de jeunesse de son père, qui, venant d'un milieu défavorisé et dominé, n'a pas pu se permettre de vivre la légèreté de la jeunesse comme d'autres ont pu le faire. Tu as essayé d'être jeune pendant 5 ans, quand tu es parti du lycée, seulement quelques jours après avoir commencé. Tu as été embauché à l'usine du village, mais tu n'es pas resté longtemps non plus. À peine quelques semaines. Tu ne voulais pas reproduire la vie de ton père et de ton grand-père avant toi. Ils avaient travaillé directement après l'enfance, à 14 ou 15 ans. Ils étaient passés sans transition de l'enfance à l'épuisement et à la préparation à la mort, sans avoir le droit aux quelques années d'oubli du monde et de la réalité que les autres appellent la jeunesse. C'est une formule un peu bête, les quelques années d'oubli que les autres appellent la jeunesse. Toi, pendant 5 ans, tu as lutté de toutes tes forces pour être jeune. Tu es parti vivre dans le sud de la France en te disant que là-bas la vie serait plus belle, moins écrasante de par la présence du soleil. Tu as volé des mobilettes, tu as passé des nuits sans dormir, tu as bu le plus possible. Tu as vécu toutes ces expériences, le plus intensément et le plus agressivement possible à cause du sentiment que c'était quelque chose que tu volais. C'est ça, c'est là que je voulais en venir. Il y a ceux à qui la jeunesse est donnée, et ceux qui ne peuvent que s'acharner à la voler. Et ainsi, au cours du livre, après avoir donc longuement parlé de sa relation avec son père, et d'avoir illustré les ambiguïtés de cette relation à travers de nombreuses anecdotes, l'auteur va finalement se livrer à une forme de politisation de son récit, où il va finalement vouloir aller plus loin dans l'analyse de cette opposition qui a pu exister entre lui et son père, en cherchant à montrer vraiment les ressorts politiques et les ressorts presque sociologiques de cette situation dans laquelle son père et sa famille, son milieu social d'origine en général se trouvaient, et qui ont pu conduire ce milieu-là à le rejeter lui, en tant notamment comme homosexuel. Et donc on voit qu'à partir de là, il y a un basculement et une forme de politisation donc, du récit autobiographique par l'auteur, qui souhaite vraiment présenter ce récit autobiographique dans toute sa complexité et ce qui inclut la complexité des rapports sociaux de domination qui pouvaient exister vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis de sa famille. Et dans ce contexte et dans cette analyse, l'accident d'usine qu'a vécu son père est considéré comme l'auteur comme un point de bascule, un point vraiment de révélation finalement de la domination sociale subie par sa famille, qui a mis justement cet homme, donc son père, dans une situation de marginalité à l'égard du marché du travail, mais donc en fait aussi plus largement à l'égard de la société. Donc Édouard Louis écrit en parlant de son père, « Après son accident à l'usine et son incapacité à retourner travailler, tu te levais tôt le matin et tu allumais la télé en même temps que ta première cigarette. J'étais dans la chambre à côté. L'odeur du tabac et le bruit arrivaient jusqu'à moi comme l'odeur et le bruit de ton être. Les gens que tu appelais tes copains venaient boire du pastis à la maison en fin d'après-midi. Tu regardais la télé avec eux. Tu allais les voir de temps en temps, mais le plus souvent, à cause de tes douleurs au dos, à cause de ton dos broyé par l'usine, de ton dos broyé par la vie qu'on t'avait contraint à vivre. Pas par ta vie. Ce n'était pas ta vie à toi. Ta vie à toi, justement, tu ne l'as jamais vécue. Tu as vécu à côté de ta vie. À cause de tout ça, tu restais à la maison. Et c'était plutôt eux qui venaient. Toi, tu ne pouvais plus bouger. Ton corps te faisait trop mal. En mars 2006, le gouvernement de Jacques Chirac, président de la France pendant 12 ans, et son ministre de la Santé, Xavier Bertrand, ont annoncé que des dizaines de médicaments ne seraient plus remboursés par l'État, dont, en grande partie, des médicaments contre les troubles digestifs. Comme tu devais rester allongé toute la journée depuis l'accident, et que tu avais une mauvaise alimentation, les problèmes de digestion étaient constants pour toi. Acheter des médicaments pour les réguler devenait de plus en plus difficile. Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins. Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms dans une biographie? En 2007, Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle, mène une campagne contre celles et ceux qu'il appelle les assistés, et qui, selon lui, volent l'argent de la société française, parce qu'ils ne travaillent pas. Il déclare « Le travailleur voit l'assisté s'en tirer mieux que lui pour boucler ses fins de mois sans rien faire. Il te faisait comprendre que si tu ne travaillais pas, tu étais en trop dans le monde. Un voleur, un surnuméraire, une bouche inutile, aurait dit Simone de Beauvoir. Il ne te connaît pas. Il n'a pas le droit de penser ça. Il ne te connaît pas. Ce genre d'humiliation venue dominant te fait ployer le dos encore plus. En 2009, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et son complice Martin Hirsch remplacent le RMI, un revenu minimum versé par l'État français aux personnes sans travail, par le RSA. Tu touchais le RMI depuis que tu ne pouvais plus travailler. Le passage du RMI au RSA visait à favoriser le retour à l'emploi, comme le disait ce gouvernement. La vérité, c'était que dorénavant, tu étais harcelé par l'État pour reprendre le travail. Malgré ta santé désastreuse, malgré ce que l'usine t'avait fait, si tu n'acceptais pas le travail qu'on te proposait, ou plutôt qu'on t'imposait, tu allais perdre ton droit aux aides sociales. On ne te proposait que des emplois à mi-temps épuisants physiques dans la grande ville à 40 km de chez nous. Payer l'essence pour faire l'aller-retour tous les jours t'aurait coûté 300 € par mois. Au bout d'un certain temps pourtant, tu as été obligé d'accepter un travail de balayeur dans une autre ville. pour 700 euros par mois, penché toute la journée à ramasser les ordures des autres, penché alors que ton dos était détruit. Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch te broyaient le dos. Tu avais conscience que pour toi, la politique était une question de vie ou de mort. Un jour, en automne, la prime de rentrée scolaire qui a été versée tous les ans aux familles pour les aider à acheter des fournitures, des cahiers, des cartables, avait été augmentée de presque 100 euros. Tu étais fou de joie, et tu avais écrié dans le salon « On part à la mer ». Et on était partis à 6 dans notre voiture de 5 places. J'étais monté dans le coffre, comme un otage dans un film d'espionnage. C'était ce que je préférais. Toute la journée avait été une fête. Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique. Parce que pour eux, la politique ne change presque rien. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé vivre à Paris, loin de toi. Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche. Ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite. Mais un gouvernement ne leur cause jamais de problèmes de digestion. Un gouvernement ne leur broie jamais le dos. Un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer. La politique ne change pas leur vie. Ou si peu. Ça aussi, c'est étrange. C'est eux qui font la politique, alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique, une manière de se penser, une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre ou mourir. En août 2016, sous la présidence de François Hollande, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, soutenue par le Premier ministre Manuel Valls, fait adopter la loi dite « loi travail ». Cette loi facilite les licenciements et permet aux entreprises de faire travailler les salariés plusieurs heures de plus par semaine, en plus de ce qu'ils travaillent déjà. L'entreprise pour laquelle tu balayais les rues pouvait te demander de balayer encore plus, de te pencher encore plus longtemps, chaque semaine. Ton état de santé aujourd'hui, tes difficultés à te déplacer, tes difficultés à respirer, ton incapacité à vivre sans l'assistance d'une machine viennent en grande partie d'une vie à faire des mouvements automatiques, à l'usine, puis à te pencher 8 heures de suite tous les jours pour balayer les rues, pour balayer les ordures des autres. Hollande, Valls et El Khomri t'ont asphyxié. Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms? 27 mai 2017, dans une ville de France, deux syndicalistes, ils portent tous les deux un t-shirt. Deux hommes interpellent au milieu d'une rue le président français Emmanuel Macron. Ils sont en colère, leur manière de parler le fait comprendre. Ils ont l'air de souffrir aussi. Emmanuel Macron leur répond, la voix pleine de mépris. « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. » Il renvoie ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un costume à la honte, à l'inutilité, à la fainéantise. Il actualise la frontière violente entre les porteurs de costumes et les porteurs de t-shirts, les dominés et les dominants, ceux qui ont l'argent et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus. Septembre 2017, Emmanuel Macron accuse les fainéants qui, en France, selon lui, empêchent les réformes. Tu sais depuis toujours que ce mot est réservé aux gens comme toi, à ceux qui n'ont pas pu ou ne peuvent pas travailler parce qu'ils vivent trop loin des grandes villes, qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils ont été chassés trop tôt du système scolaire, sans diplôme, à ceux qui ne peuvent plus travailler parce que la vie à l'usine leur a broyé le dos. On ne dit jamais fainéant pour nommer un patron qui reste toute la journée assis dans un bureau à donner des ordres aux autres. On ne le dit jamais. Quand j'étais petit, tu répétais obsessionnellement. Je ne suis pas un fainéant, parce que tu savais que cette insulte planait au-dessus de toi, comme un spectre que tu voulais exorciser. Il n'y a pas de fierté sans honte. Tu étais fier de ne pas être un fainéant parce que tu avais honte de faire partie de ceux qui pouvaient être désignés par ce mot. Le mot fainéant est pour toi une menace, une humiliation. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus. Donc ici, on voit bien dans ce passage comment ce récit finalement prend un ton politique, finalement, toute la situation, toute la relation compliquée qu'il a pu vivre avec son père. Il l'a fait reposer en quelque sorte sur une situation de domination et considère que cette situation de domination imposée à ceux qui constituent son milieu social d'origine, donc notamment son père, mais aussi le reste de sa famille, et on pourrait aller aussi étirer au reste des personnes avec qui il a vécu dans ses quartiers populaires, dans ses milieux ruraux, dans la Somme. La domination sociale, la domination économique dans laquelle ces personnes-là sont plongées, les pousse eux-mêmes à reproduire des schémas dominateurs. Et donc notamment dans le cas d'Edouard Louis, on peut considérer que c'est notamment l'homophobie qu'il a pu vivre dans ces milieux-là et qu'il raconte plus longuement dans Finir avec Eddie Bellegueule. Voilà, on a vraiment ce lien qui est fait finalement entre une domination sociale et économique, et la reproduction de comportements homophobes, mais aussi on pourrait considérer des comportements racistes et en tout cas des comportements excluants dans une idée toujours de ne pas être le plus dominé, et de chercher de passer de ce statut de dominé à dominant en s'en prenant à d'autres minorités et en essayant de reproduire peut-être les travers qui nous ont été à nous-mêmes imposés. Mais suite donc à ce discours grandement politique, qui sert donc de conclusion au livre, les dernières pages du livre se concluent sur une note d'espoir quant à la possibilité de reconstruire les liens finalement entre ces individus qu'apparemment tout oppose et qu'en tout cas la société et ses rapports sociaux, encore une fois, de domination qui sont longuement analysés et mis en exergue dans le livre, auraient pu construire. Et donc là, notamment, c'est le cas entre Édouard Louis et son père, qui ont pu s'opposer sur plusieurs questions, donc à la fois sur la question de la sexualité, mais aussi sur la question de l'éducation. Édouard Louis ayant fait des études, et des études d'autant plus prestigieuses à l'école normale supérieure, tandis que son père n'a pas le bac. Et donc la fin essaye de montrer qu'au-delà de ces différences, il y a des liens qui sont plus forts, qui sont les liens de l'amour qui a toujours été dans ce livre en toile de fond, même dans les scènes peut-être les plus crues, les plus violentes. Dans la fin de son livre, il montre bien que cet amour qui a toujours été sous-jacent est plus fort, en tout cas selon lui, est plus fort que les rapports de domination qui peuvent exister par ailleurs, sur des critères qu'ils soient sociaux, économiques ou d'orientation sexuelle dans son cas à lui. Et donc pour montrer cet espoir et aussi cette possibilité finalement de reconstruire ces liens qui auraient pu être détruits par des situations sociales et des positions sociales, Édouard Louis conclut son livre ainsi en écrivant ceci. « Tu as changé ces dernières années. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Nous nous sommes parlé longtemps. Nous nous sommes expliqués. Je t'ai reproché la personne que tu as été quand j'étais enfant. Ta dureté, ton silence, ces scènes que j'énumère depuis tout à l'heure. Et tu m'as écouté. Et je t'ai écouté. Toi qui toute ta vie as répété que le problème de la France venait des étrangers et des homosexuels, tu critiques maintenant le racisme de la France. Tu me demandes de te parler de l'homme que j'aime. Tu achètes les livres que je publie. Tu les offres aux gens autour de toi. Tu as changé du jour au lendemain. Un de mes amis a dit que ce sont les enfants qui transforment leurs parents et pas le contraire. Mais ce qu'ils ont fait de ton corps ne te donne pas la possibilité de découvrir la personne que tu es devenue. Le mois dernier, quand je suis venu te voir, avant que je parte, tu m'as demandé « Tu fais encore de la politique ?» Le mot « encore » faisait référence à ma première année au lycée, quand j'avais adhéré à un parti d'extrême gauche, et qu'on s'était disputé parce que tu pensais que j'allais avoir des ennuis avec la justice à force de participer à des manifestations illégales. Je t'ai dit « Oui, de plus en plus. » Tu as laissé passer 3 ou 4 secondes. Tu m'as regardé et enfin tu as dit « Tu as raison. Tu as raison. » Je crois qu'il faudrait une bonne révolution. Et c'est donc sur ces mots que se conclut ce livre d'Édouard Louis, Qui a tué mon père, que j'espère vous avoir donné l'envie de lire. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et merci de nous écouter sur Shalom Bourgogne.
L'envie de lire.
Radio Shalom, Dijon.